Je veux que ça problème que j'ai l'air s'accroche et pèse sur tes neurones.
C'est quoi qui te fait avancer?
Je veux que ça problème que j'ai l'air s'accroche et pèse sur tes neurones.
C'est quoi qui te fait avancer?
Des porcs armés aux trousses qui d'une balle plongent la course dans le caniveau du non-lieu.
Dans ce pays merdique, y'a un képi pour une casquette.
La douce France casse du bronze et bébé.
Aucune censure que les keufs flinguent des jeunes dans le commissariat. Aucune censure que les chômeurs sont bêtes à part les CRS. Aucune censure quand ces mêmes CRS font se dé une église. Les keufs
chouent. Je vois des femmes sans crever.
Pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix.
J'aime pas ton drapeau.
Pas de justice, pas de paix.
Pas de justice, pas de paix.
J'aime pas ton drapeau.
Tu t'occupes des enfants au lieu de soigner tes monuments.
Et pour ceux qu'on laisse en plan, c'est ça la douce France.
T'as vu la merde que c'est pas une solution de fermer les yeux.
Il faut que je me venge, alors je fais couler l'encre.
Pour qui je vote? Celui qui défend ma cause ou bien un voyou de la route?
À gauche comme à droite, tous la même requête.
On fait flipper la France ici, les poètes contre leur écrit.
Et dans un style réfléchi, je lève leur main rhétorique.
Pas de justice, pas de paix, pas de paix, pas de paix, pas de paix.
J'aime pas ton drapeau.
Pas de justice, pas de paix, pas de paix, pas de paix, pas de paix.
J'aime pas ton drapeau.
Pas de justice, pas de paix.
Frontline 106.3, 106.3.
Yes, yes, bonsoir à toutes et bonsoir à tous, bienvenue sur l'émission Frontline, la ligne de front, fréquence Paris Pluriel 106.3. Et Frontline, c'est toujours le deuxième et le quatrième vendredi de chaque mois, de 18h à 19h. Rediffusion le mardi après-midi, de 16 à 17, ça c'est tout nouveau. Cette semaine, comme depuis plusieurs semaines maintenant, la ligne de front, elle est du côté des Antilles, et notamment la Martinique et surtout la Guadeloupe. Frontline 106.3.
Aux Antilles, le rêve.
Du chômage
des jeunes
avec 55,7% des 15-24 ans qui sont au chômage.
Avoir 20 ans aux Antilles, le rêve. On les imagine sur la plage, au soleil, en grandes vacances perpétuelles.
Le pouvoir, c'est les Blancs, et ceux qui sont en femme, c'est les Nègres et les Indiens. Dire ça, c'est pas du racisme, c'est une réalité.
Par le chômage, qui rongé par le sous-emploi, qui rongé par le racisme, que seule réponse à l'État, c'est les insultes, c'est les insultes, que seule réponse à l'Ébéki, que seule réponse à William Jacques, que seule réponse à les patrons, c'est justement de ne pas négocier. Dernière proposition à Yossi Kimité, 1,6% d'augmentation, c'est même pas le coût de la vie. Il y aura proposé 1,6% d'augmentation. C'est considéré, il y aura rétabli. À pas question de moli, aujourd'hui là, il faut que vous respectez quoi le pays. Nous avons dit au béquet, nous avons dit à M. Angèle Amand pour lui que nous puissions faire marche arrière en dénonciation. Et que si jodi la, yo bise fait en Guadeloupe en mai 67, nous te fait, mais grâce à nous pas amour. Grâce à nous, péke mon, péke mon. Je dis ça solennellement, là, péke mon, péke mon.
Manger, la chambre va manger.
Ces revendications sont tout de même légitimes, dans la mesure où nous savons tous que le revenu des Guadeloupéens est 40% moindre que celui de la France métropolitaine et que celui des Martiniquais est 30% moindre. Et dans le même temps, la vie dans les deux îles est 40% plus chère.
Alors moi, je suis un touriste, je suis arrivé en peine dans les Gaves et je suis corse, ce qui n'arrange rien. Et je leur donne entièrement raison. Il faut qu'ils se défendent.
Felgi Cher est le fait de spéculateurs qui sont pour la majorité des Guadeloupéens ou des Martiniquais d'origine européenne, donc descendants des colons propriétaires d'esclaves, qui détiennent 80% de l'économie actuellement.
Les gens sont exaspérés, vous l'avez vu. Le mouvement est largement porté par le peuple guadeloupéen.
De 21 à 25,2% de chômeurs pour la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la Réunion. C'est trois fois plus que la moyenne européenne et la moyenne française, environ 8%.
Politique là, pâté, tu es molle. La banquette t'a frappé. Charles Zizine tombé du corps. En vérité, Mounde est à commander.
We'll be right back.
Yes, Frontline 106.3, la ligne de front, FPP, yes. Donc après cette introduction, on va vous proposer maintenant un interview de Joël Nankin qui a été réalisé en 2005 à Pointe-à-Pitre. Joël Nankin, c'est un militant nationaliste, qui est aujourd'hui un artiste peintre et qui est entre autres un des fondateurs de Akio. Akio, c'est un groupe de musiciens guadeloupéens. C'est aussi plus largement un mouvement culturel, aujourd'hui une association, qui a remis à l'honneur dans la musique guadeloupéenne la fierté, les influences africaines, notamment autour du tambour, du croca, et qui propose en tout cas quelque chose de très intéressant au niveau de la culture guadeloupéenne, avec tout un travail autour du carnaval. Vous verrez, c'est évoqué dans l'interview. Cette interview, il a été réalisée donc en 2005 à Pointe-à-Pitre par Lynxka, donc qu'on remercie, qu'on big up au passage. On l'a récupéré sur internet et donc vous pourrez trouver. On vous donnera à la fin de l'émission l'intégralité de l'interview en vidéo. Et voilà, donc ça nous semblait intéressant en tout cas de vous proposer cet entretien, cette parole en tant que réflexion sur l'identité guadeloupéenne, sur l'identité caribéenne, sur l'histoire de cette île, des mouvements, des luttes qui ont déjà marqué l'histoire de cette île jusqu'à aujourd'hui, et aussi par rapport à la place que peut occuper la culture dans ces luttes et l'affirmation de cette identité. Donc on vous laisse avec cette interview de Joël Nankin réalisée par Lynxka. On vous rappelle juste que c'est un interview qui a été fait en 2005.
Que j'ai eu un autre regard sur le pays, quoi. Ou alors j'ai eu une interrogation, je commençais à m'interroger sur mon pays.
À partir de mai 67?
Oui, mais de ma connaissance d'enfant, je veux dire. Hein, c'est-à-dire que j'étais enfant, j'étais au collège. Je me souviens bien, on nous a fait partir à 3h de l'après-midi, disant qu'il fallait rentrer et tout ça. Le temps d'arriver chez moi, il fallait traverser la Victoire. Il y avait déjà les travailleurs sur le quai, là. Donc je me souviens, au lieu de partir d'aller chez moi, je suis resté à regarder ce qui s'y passait, parce que avoir comme ça investi dans l'armée, en plus tant de légionnaires à l'époque, on les appelait les légionnaires, c'était plutôt une curiosité pour nous enfants d'aller voir ces fusils braqués contre les travailleurs. Non, c'est quand même quelque chose, une image d'enfant qui est terrible.
C'était quoi les revendications, enfin, voilà.
Mais c'était les travailleurs du bâtiment qui revendiquaient pour 1% d'augmentation. Aussi bête que ça. Et il y a eu une bavure, je crois, il y a eu un flic qui a tiré sur un... Enfin, une bavure, je m'autorise à penser que c'était une bavure autorisée et programmée, parce qu'il s'agissait de Jacques Nestor, qui était lui-même un militant syndicaliste anticolonialiste. Donc, à l'époque, à partir du moment dans les colonies, comme la Guadeloupe, où quelqu'un essayait d'ouvrir les yeux de ses frères ou alors de dire ce qui s'y passait, il fallait l'éliminer. Hein. C'est pas, ça c'est vrai pour nous en Guadeloupe, mais ça a été vrai pour l'Algérie, pour l'Afrique, pour partout. L'Afrique, ça a toujours les mêmes méthodes partout. Donc c'est un peu ça. Et puis après, il y a eu le résultat qu'on a su. On a, alors jusqu'à présent, on nous a toujours caché le nombre de morts qu'il y avait eu. Et ce n'est que bien longtemps après qu'un certain ministre socialiste français, en la personne de M. Dijoux, il apprenait comme ça, dans une discussion à la radio, il y avait eu 99 morts ou 89 morts. Alors que nous, on pensait toujours qu'il y avait peut-être 2-3 morts. Mais en fait, il y avait pas mal de morts parce qu'il y avait eu des rafles, carrément, et ils tiraient sur tout ce qui bougeait dans cette nuit-là.
Les gens dirigés vers qui ?
Dirigés vers les gens qu'on trouvait dans la rue, parce qu'il y avait couvre-feu et tout ça. Et comme les travailleurs manifestaient, donc dès qu'on était dans la rue, on était considérés comme... voilà. Donc on était ramassés, soit on était tirés, on nous tirait dessus, et voilà.
Mais donc c'est parti de
le conflit.
D'ouvrier du bâtiment.
D'ouvrier du bâtiment.
Et après, ça s'est généralisé vers d'autres
secteurs. Ça s'est généralisé parce que c'était une tuerie, les gens étaient quand même... Et puis à l'époque, il faut dire, il naissait aussi les gros mouvements nationalistes, comme le GONG.
Le GONG ?
Ouais.
Ça signifie quoi ?
Groupement d'organisation nationaliste guadeloupéenne, national guadeloupéenne. Groupement d'organisation nationale, le GONG. C'est vraiment la grosse première organisation nationaliste.
Et toi, tu étais dans quel...
Bon, moi, je suis venu après parce que j'étais bien plus jeune à cette époque-là. Parce que là, on parle de 67. Bon, moi, je suis arrivé après, si tu veux, après, dans la période de l'UPLG, du MPGI et de l'ARC, l'Alliance Révolutionnaire Caraïbe. L'Alliance Révolutionnaire Caraïbe.
Okay.
Voilà. Donc, pour ce que j'ai été, d'ailleurs, j'ai été incarcéré et condamné, d'ailleurs.
Il y en a eu d'autres dans ton cas qui ont été incarcérés juste parce qu'ils faisaient partie
Oui, mais bon, c'est une longue histoire. C'est-à-dire qu'il y a eu, dans les années 80, il y a eu une grosse mobilisation nationaliste ici, avec des organisations, c'était des grosses mobilisations, il y avait une conscientisation en marche et tout. Et à cette époque-là, nous avons été arrêtés, 14 ou 16 de mes camarades et moi-même, nous étions 17. Voilà, suite à une série d'attentats qui avaient eu lieu à Pointe-à-Pitre, à Martinique, en Guyane et à Paris.
Attentat
à la bombe. Non, mais ça c'est... J'ai été condamné pour ça. Donc j'ai été condamné pour ça. J'ai passé six années en prison, dont une année à Martinique, deux années à Pointe-à-Pitre et trois ans à Basse-Terre. Voilà. Mais j'étais condamné pour atteinte à l'intégrité du territoire national français. C'est-à-dire que j'avais porté atteinte à l'intégrité du territoire national français dans mon pays, chez moi, en Guadeloupe. Il faut dire que la géographie, heureusement que la géographie ne s'est pas mentie, parce que je ne me suis jamais senti français. Ne serait-ce que par la géographie.
Toujours pas aujourd'hui ?
Ah non, je ne me sens pas français. Je suis dans un giron français parce que j'ai un passeport français, parce que. Parce que je vais te dire, les Allemands, attends, c'est bien simple. Les Allemands gagneraient la guerre. Que ce serait les Allemands, eh bien nous serons Allemands aujourd'hui, on ne se poserait pas de questions, on serait Allemands et contents. Mais oui, parce que nous n'avons pas choisi notre colonisateur.
Personne n'a choisi.
Mais nous ne l'avons pas choisi, donc moi je dois le refuser.
Ouais.
Moi je ne me sens pas français, je n'ai rien de français moi. Mais je veux être logique, même si je me dis que j'ai un passeport français, c'est vrai, on me dira que tu as des avantages, parce que... Mais c'est pas un passeport qui me donne ma qui me fait ma personne, c'est pas... Non, moi je ne vois pas les choses comme ça, je ne me sens pas français, je ne me sens pas sensibilisé par l'histoire de France, l'histoire même de France. En plus, l'histoire de France est antagoniste avec mon histoire à moi, de mon pays, de mes parents, etc. Même si j'ai un père et français ou occidental. C'est ça le truc. C'est une situation même, on dira, névrotique. C'est une situation névrotique.
Et à l'époque, quand tu as commencé à intégrer des groupes comme le GONG et tout ça,
j'ai pas intégré le GONG. J'ai vu le GONG enfant. C'est-à-dire que pour moi, c'était formateur. Parce que j'étais pas au GONG, moi.
Toi, tu étais dans quelle formation ?
Moi, je n'ai pas été dans des organisations, ni UPLG, ni MPGI. Mais c'est vrai que j'ai été condamné pour des actions dites entre guillemets par certains terroristes, n'est-ce pas, faisant partie de l'ARC, l'Alliance Révolutionnaire Caraïbe. C'était une organisation qui, qui allaient sur la Guadeloupe, la Guyane et la Martinique.
Pour certains, c'était considéré comme des actions terroristes. Donc pour vous, c'était des actions
patriotiques. C'est pas genre patriotique. À partir du moment qu'il y a une résistance dans un pays, c'est une lutte politique, c'est pas autre chose.
Et donc à l'époque, toi, tu te considérais comme quoi, si tu te considérais pas comme français? Et aujourd'hui, est-ce que tu te considères...
Ça n'a pas changé.
Hein?
Ça n'a pas changé.
Ça, donc tu te considères comme quoi?
Comme ce que je suis, Guadeloupéen.
Guadeloupéen.
Mais bah, c'est
pas la question, parce que...
Oui, mais c'est pas moi qui veut, qui est une simple vue de l'esprit. C'est pas une simple vue de l'esprit. Je suis Guadeloupéen parce que je suis né sur une terre qui a une histoire bien précise. Même si on a fait un bout de chemin avec les Français sur trois siècles passés, mais nous n'avons jamais eu à choisir notre colonisateur. Si tant est, les peuples choisissent le colonisateur. Donc nous sommes français par la force des choses, comme on ne peut empêcher de dire le contraire. Nous sommes français par la force des choses. Même la personne ici la plus aliénée, la plus assimilée, la plus bornée, dans ses retranchements les plus profonds, il n'est pas français, il sait qu'il n'est pas français. Il sait qu'il se sert de système, qu'il est dans un truc et puis il ne se pose pas de questions. Parce que ça ne veut pas dire que parce que je ne suis pas français, que je ne dis pas que le système français n'a pas des avantages pour l'homme, pour l'humain. Hein. Le système français, c'est un système quand même où ils ont eu leur évolution, ils sont ce qu'ils sont, mais enfin, c'est bon pour eux. Mmh. Attention, je ne suis pas anti-français, je ne suis pas quelqu'un qui soit enragé contre les Français. Je dis je suis contre les Français chez moi, dans mon pays, parce que, en plus, quand on voit ce qu'ils font ici...
Quand tu dis le français ou les Français, l'homme blanc en particulier, précisément.
Il y a un système dans toutes les colonies, ça a été comme ça en Algérie, ça a été en Afrique, ça a été partout, je n'invente rien, où il y a une administration française avec des sentinelles, je les appelle. Je les appelle des sentinelles parce qu'ils sont là pour garder la maison. Okay? Ils s'en foutent de ce qui se passe dans le pays, que ce soit dans l'éducation nationale, que ce soit dans la justice. Alors, on arrive à quelque chose. Les gens parlent de Pretoria, de l'Afrique du Sud. Mais moi, je vais te dire, un petit jeune qui se fait arrêter dans la rue, okay? qui parle difficilement créole et français, hein? Qui n'a pas un niveau intellectuel, qui va, on l'arrête pour une enveloppe d'herbe dans la rue ou fume un joint. On l'amène au palais, il a devant lui quoi? Il a devant lui trois magistrats blancs. Le plus souvent, ils comprennent même pas ce que le petit gars dit parce qu'il parle que créole. Il est là. À tour de bois, 6 mois de prison. Tu arrives, on rencontre notre petit français dans la rue, à faire quelque chose du même genre, pour la même chose. Il ne passe même pas en justice, mon ami.
C'est ce qui s'est passé pour vous lorsque vous avez été jugé?
C'est-à-dire? Ah non, mais de toute façon, la justice ici, la justice est faite de blancs. Okay. De quel pays, bon Dieu, la justice est rendue par les gens qui viennent d'ailleurs? Mais je pose des questions simples. J'aimerais bien qu'on me réponde. Aucun pays n'accepterait d'être jugé par des gens qui ne sont pas de leur culture. Déjà, on nous condamne avec des lois que nous n'avons pas votées. Ça veut dire qu'ils légifèrent pour nous. Ils décident de notre avenir. Comment voulez-vous que je sois, moi, un homme lucide, et je me veux conséquent? C'est pas normal, c'est pas une vue de l'esprit. Être patriote, c'est pas une vue de l'esprit dans un pays comme le nôtre.
Alors, pour revenir sur l'identité, mm-hmm. Tu dis que t'es Guadeloupéen,
ouais.
Tu t'es toujours fait comme Guadeloupéen.
Mais je suis ça.
Maintenant, je sais j'entends souvent des gens dire, moi je suis antillais, je suis caribéen,
oui.
Toi, qu'est-ce que t'en penses? Alors, qu'est-ce que tu te ressens là-dedans ou pas?
Non. Bon, je suis forcément antillais parce que je suis dans les Antilles. Mais attention, en France, quand on te dit que tu es antillais, le français dans sa tête, dans sa petite tête, pense que les Antilles, c'est Guadeloupe, Martinique. Non, nous sommes sur la chaîne des grandes Antilles, des petites Antilles. Moi, je me situe pas par rapport à la France, moi. Je me situe par rapport à moi et par rapport à mon environnement géographique. Nous sommes dans les Antilles. Et nous sommes dans la Caraïbe. Donc, tout naturellement, nous sommes caribéens et antillais. Mais pas antillais dans le sens que le français dit « Ah, toi, tu es antillais ?» Non, okay. Parce que l'haïtien est antillais, le cubain est antillais, c'est les grandes Antilles. Quand tu vas un peu plus haut, Barbade, c'est les Antilles aussi, ils sont aussi antillais. Voilà.
Okay.
Question géographique, quoi.
Si c'est pas vrai, nous nous voilà, nous pas j'en coûter. Si n'est que c'est la ténèbre, mais l'esprit en nous, c'est la lumière.
C'est pas fait nous noirs, parole en nous pas j'en coûter. Mais c'est la ténèbre, l'esprit en nous c'est la lumière.
La jeunesse va nous savoir que combat derrière pour vous manier. Avant nous ressouffler, mon bloqué va s'en bas pour là. Tout ça pour nous comprendre que ville la calée en décadence. Nous la pour point faire, il temps pour nous dire que nous bon.
C'est pas
Sur la musique d'Akio, vous êtes toujours à l'écoute de Frontline, fréquence Paris Pluriel 106.3, et particulièrement à l'écoute d'un entretien avec Joël Nankin, artiste peintre guadeloupéen. Un entretien réalisé en 2005 à Pointe-à-Pitre, réalisé par Lynxka. On écoute la suite de l'entretien donc avec Joël Nankin.
Comme tous les peuples, il y a des moments, des grands moments, et il y a des moments où on a l'impression que l'histoire nous a oubliés.
Que
l'histoire nous oublie.
Okay.
Hein? Mais non, mais je pense que les peuples évoluent comme ça, à leur rythme. Mais quand on est dans un pays où, par exemple, les gens, on vous donne de l'argent sans travailler, que vous fassiez des enfants, que vous ne travaillez pas, que vous avez un RMI, alors ils créent un système où les gens sont encore plus dépendants par le ventre. Donc forcément, à un certain moment, sommeille l'esprit. Le ventre est bien repu, tout le monde est là. Mais il suffit dans un pays comme le nôtre qu'il y ait une petite étincelle pour se rendre compte que rien n'est réglé. Et que tout est là, tout est à fleur de peau. Je vais te dire quelque chose qui est simple. Et ça, je me pose la question à n'importe qui. Et j'aimerais bien qu'il me réponde. Comment veux-tu que l'homme d'un pays soit équilibré, soit bien dans ce pays, si son histoire ne lui a pas été enseignée à l'école? Aucun peuple n'accepte ça. Ça, c'est névrotique. Alors, le résultat que nous avons aujourd'hui, je fais ce parenthèse parce que le résultat que nous avons aujourd'hui de l'homme guadeloupéen d'aujourd'hui, c'est le résultat de tout ça. L'homme qui est complètement décontenancé de lui-même et qui doit, à tout prix pour être un homme, ressembler à un autre qui n'est pas lui. Ça, c'est névrotique. N'importe quel psy, n'importe quelle personne qui pense, ne pourra pas me répondre là-dessus. Autrement que... Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est pas...
Et ben justement, à quel moment, on dit que c'est toi le fondateur d'Akio?
Je fais partie des...
Tu fais partie des fondateurs?
Je fais partie des penseurs, je préfère dire.
Des penseurs?
Oui, des penseurs d'Akio.
Quelle différence tu fais entre fondateur et penseur? Pourquoi penseur et pas...
Non, penseur, parce que j'ai toujours impliqué l'Akio, l'esprit politique d'Akio, c'est moi.
Et à quel moment, justement, vous avez décidé
c'est complexe.
De créer Akio? Qu'est-ce qui vous a poussé à créer ça?
Bon, alors, Akio, bon, de toute façon, tout est lié, hein, parce que dans les années 80, il y avait une mobilisation identitaire, les gens tournaient autour du burqa, autour de l'oubliette. Bon, voilà. Identitaire. Bon, à ce moment-là, moi, je faisais partie déjà d'une radio qu'on appelait Radio Unité. C'était une radio nationaliste qui émettait, qui faisait des émissions extraordinaires, qui étaient écoutées dans toute la Guadeloupe, qui vraiment, ça marchait très très fort à l'époque. En fait, c'était l'anti-radio. Quoi.
Et, au moment des radios libres.
Oui, au moment des radios libres, 81. Voilà. Et puis... comme moi-même, faisant partie, parce que je dois te dire que depuis mon jeune âge, j'ai toujours joué avec vélo, avec conquête, avec loison. J'ai toujours eu la chance, moi je dis ça souvent, d'avoir été au bon endroit au bon moment. Ok? Parce que j'ai joué pendant longtemps avec conquête, j'ai joué pendant longtemps avec loison, j'ai joué avec vélo, enfin j'ai joué avec tous ces gens-là. J'étais les premiers jeunes qui venaient vers ces gens-là pour faire du rock. Ok? Et puis, tout naturellement, en 81, il y avait des arrestations de camarades. D'accord? Mes camarades, il y avait Renette, il y avait Gambi, Elise, enfin la première vague d'arrestation en Guadeloupe. Et moi, je suis étant justement quelqu'un qui a toujours fait le carnaval, mais à l'époque je jouais dans les Massas Saint-Jean.
Ça,
les Massas Saint-Jean,
c'est... Rue, ça,
hein?
C'est un groupe de rue.
C'est un groupe de rue, d'où vient la musique de la Quillot. Parce que ce que je joue à Quillot, c'est la musique des Massas Saint-Jean. Okay? Mais moi je jouais avec les Massas Saint-Jean à l'époque. Bien, je suis bien. Avec les Massas Saint-Jean. Donc, alors étant donné qu'on avait arrêté les camarades, pour nous, il n'était pas question d'aller faire carnaval pour fêter. Parce que nous avions des camarades arrêtés et emprisonnés. Donc, nous nous sommes servis de tremplin, comme tremplin du carnaval, pour justement sortir des choses politiques. Okay. Alors, t'imagines comment les gens ont reçu ça, parce que... Comment les gens ont reçu ça, parce que carnaval, c'est carnaval. Et en même temps, les gens ont vu que nous nous sommes enchaînés dans les rues, carnaval, en plus on a fait cette musique-là. Et c'est là qu'a eu sa première connotation nationaliste. C'est depuis ça. Et en plus, à travers les gens qui formaient Akio, c'est-à-dire moi-même et d'autres, étant connus pour nos idées nationalistes, tout de suite, les gens ont dit que, de toute façon, Akio, c'est nationaliste. Et à partir de ça, on a continué à gonfler, à gonfler, à gonfler, jusqu'à arriver à des milliers de personnes. Et après, on a structuré le groupe pour monter Akio, l'Akio qu'on connaît aujourd'hui. Enfin, les restes qu'on connaît aujourd'hui.
J'ai entendu dire qu'au départ, Akio n'avait pas forcément... l'adhésion de tout le monde,
mais non.
Ça se fait au fur et à mesure.
Mais bien sûr, on a fait railler pour ça. Parce que de toute façon, on arrivait comme ça, en plus des nationalistes, des gens qui avaient un discours, qui disaient qu'il fallait retourner aux valeurs guadeloupéennes, etc. Bon, tout de suite, ça choque, mais après, à partir du moment où tu donnes aux gens, tu fais comprendre aux gens que ça leur appartient, les gens, ils y adhèrent, hein. Mm-hmm. C'est tout.
Donc ça a commencé par le groupe informel, la Kyo.
Ça a commencé par un groupe de personnes, nous étions 17 au départ.
Et après, apparemment, il y a eu la création d'une association.
La deuxième sortie, il y a eu 200, après il y a eu 2000, après ça, il y a eu... Voilà, voilà.
Et le moment où vous avez décidé de créer une structure associative, c'était...
Non, ça c'est après. Parce que les gens qui sont venus, qui ont créé... Parce que moi, les gens comme moi, au départ, on ne se serait jamais constitué en association.
Pourquoi?
Mais non, parce que c'est le marronnage.
Le marronnage.
Mais c'était un marronnage. Pour nous, c'était sorti dans tout ce qui se faisait. Et culturellement, faire autre chose et dire que nous faisons autre chose et que nous n'avons pas besoin d'organisation française pour nous dire comment faire notre culture. Donc, c'était...
Bonjour, mon frère.
Bien, mon frère. Yes. Bien.
Bien.
Yeah. Hello. Voilà quoi.
Yeah.
Donc, et puis, bon... Moi je disais que c'était nous. C'est-à-dire que, bon, les choses évoluent. Je ne suis pas contre qu'il y ait une association, l'OB 901, qui régisse les associations, qu'on rentre dedans. Les jeunes qui sont venus après, ils ont fait ce qui était bon pour l'époque. Moi je ne vais pas lancer les choses polémiques. Mais ce que je dis, c'est que nous avons créé Akio pour être justement en rupture avec tout ce qui se faisait. Donc, nous ne pouvions pas, nous, à l'époque, aller demander, nous adhérer à une association, l'OB 901, l'OB 901 de quoi ? Qui a été voté par les Français chez eux pour eux. Mais non, mais ça n'entrait pas pour nous dans notre esprit. C'était un marronnage avec tout ce qui se faisait, tout ce qu'on nous donnait. Et là, nous prenions à bras le corps ce que nous avions. Donc, nous ne demandons pas l'autorisation à l'État. C'était ça le truc. C'était rupture. C'était un marronnage total.
Et le Nankin artiste peintre, artiste plasticien, il est apparu quand ? Dans tout ce que tu m'as raconté.
Moi, j'ai toujours été peut-être artiste, hein, ouais. Sans prétention. Mais la peinture même est venue dans ma vie en prison.
En prison ?
C'est en prison que j'ai commencé à faire mes premiers crayons, j'ai commencé à faire les premières choses. Donc en 85. Voilà. 85.
C'est un autodidacte de la peinture.
Je suis autodidacte. Mais bon, autodidacte, je ne sais pas si je dois toujours dire autodidacte, parce que comme on dit, nous sommes de partir en Haïti, de partir à Saint-Domingue, de partir à Trinidad, de travailler dans nos ateliers de peintre. Donc c'est l'autodidacte, mais quand même, qui a fait partie des ateliers.
Ouais, okay.
Non, mais c'est autodidacte, mais quand même, quand on côtoie des gens dans des ateliers, bon, c'est quand même une école. C'est comme une école. Donc, autodidacte, oui, mais avec le soutien de pas mal de frères haïtiens, Saint-Domingue, etc.
Ok. Et donc, ensuite, en sortant de prison, tu t'y es consacré pleinement ?
Oui, alors en sortant de prison, c'est vrai que j'ai repris l'enseignement, je suis resté
dans l'enseignement. T'as été
enseignant aussi ? Si, j'ai toujours été enseignant.
De quoi ?
Non, mon domaine, c'est tout à fait autre chose que la peinture. Je travaillais dans le monde de l'hôtellerie, c'est-à-dire que j'étais professeur d'enseignement hôtelier.
Okay.
Voilà. Jusqu'au dernier lycée Gauzier, j'ai fait Bainbridge, j'ai fait tous les lycées hôteliers. Voilà encore quelque chose qui me... Je ne pouvais pas être fonctionnaire. Voilà. Mais ça, donc un bonjour, je me suis levé, je me suis dit, bon, eh ben merde, je ne vais plus là.
Mais ça, c'était bien avant que tu fasses tous ces...
Non.
C'était en même temps.
Non, à ce moment-là, j'étais enseignant. Pendant toutes mes arrestations, tout ce que je faisais avant, j'étais enseignant. Ok, j'étais enseignant. Et c'est après ma libération de prison que je me suis organisé pour ne plus être fonctionnaire. Et pour être en phase avec mes pensées. Mais... Voilà. Et depuis, je suis libre parce que je me réveille le matin. Je n'ai pas de... Je suis pas ulcéré, en fait.
La liberté a un prix. Donc c'est pas... C'est dur, en fait. Je veux dire, c'est pas... Se sortir d'une situation où on était assez confortable, ouais, pour être libre,
non, mais... comme tu dis, tout ça, c'est... Oui, mais dans nos pays, voilà encore quelque chose. Et je crois que c'est comme ça pour beaucoup de colonisés. Nous avons toujours peur de la liberté.
Exact.
Nous avons peur de changement. Nous avons peur de changer. Parce que nous avons peur, nous ne savons pas ce qu'il y a derrière. Et on nous a toujours appris qu'il y a quelqu'un qui te mettra la nourriture dans la bouche. Alors, si cette personne te met la nourriture dans la bouche, tu vas crever. Tu ne peux rien faire pour toi seul.
Pourquoi tu n'as pas repris la politique en sortant, enfin,
suis...
repris.
Mais je suis en plein dedans.
Non, mais je veux dire la politique politicienne.
Je suis en plein. Non, je ne veux pas en faire la politique politicienne parce que c'est une watch, c'est un système. Mais je pense que venir dans la rue à faire ce que je fais, c'est un acte politique.
Ouais, mais on sait bien que la politique, c'est ce qui est à l'origine de tout, enfin à la base de tout, c'est ce qui décide.
Mais oui, mais ce qui est important dans nos pays, c'est pas ce qui va décider, parce qu'on ne peut rien décider. Mais c'est seulement former la tête des gens, leur apprendre, leur donner des outils pour qu'ils puissent critiquer, avoir un esprit critique. Et ça passe par la culture, ça passe par l'art, ça passe par ces choses-là. Il faut former l'homme. Et quand tu formes l'homme, à ce moment-là, l'homme peut avoir des choix. Il peut faire des choix. Il n'accepte pas tout ce qu'on lui donne. Ici, par exemple, il n'y a pas d'opinion publique. Un homme politique peut dire aujourd'hui bleu, demain sur la même radio, il dit jaune, et personne ne va le contredire, personne ne va même pas... Ça ne restera pas.
Ah ouais.
Mais non, il n'y a pas d'opinion publique. Sinon, on n'aurait pas eu des hommes politiques comme nous avons. Ils sont des qui n'ont aucun pouvoir. Mais aucun pouvoir. Les hommes politiques qui sont ici, ils n'ont aucun pouvoir. Ils gèrent le quotidien, ils sont là à gérer le quotidien, c'est tout. Et puis, ils sont en train de têter la France parce qu'ils ont tous les avantages.
Et à travers tes travaux artistiques, j'imagine que tu veux faire transmettre des choses. Mais est-ce que les gens qui les regardent, qui les achètent, perçoivent, ou alors, est-ce que tu as des retours de leur interprétation de...
Non, mais ça ne m'intéresse même pas.
Ça ne t'intéresse pas.
Ça ne m'intéresse pas parce que...
Parce que quand même, ce que tu fais, c'est assez marqué. Alors, je veux dire, tout de suite, on voit que...
Non, mais je mets à plusieurs niveaux la peinture. Ma peinture, c'est-à-dire mes tableaux, mes toiles, ma réflexion sur la peinture et sur l'art, c'est autre chose que ce que je fais dans la rue. C'est pour ça que je dis que ce que je fais dans la rue, pour moi, c'est éminemment politique. Politique dans le sens de culturel, de formation. Donner des images aux gens qui leur envoient à eux.
Mais liberté, nous qu'a crié, nous c'est adieu,
nous c'est adieu, nous c'est adieu, mais tout n'est pas bon qui libère nous.
A pas chercher qui libère nous, à pas bander qui libère nous, à pas politique qui libère nous, son akala qui libère nous.
Nous c'est adieu, nous c'est adieu, nous c'est adieu, mais tout n'est pas bon qui libère nous.
A pas université qui libère nous.
Nous c'est adieu, nous c'est
côté fin de ces extraits qu'on vous propose de l'entretien avec Joël Nankin, militant, artiste guadeloupéen, entre autres fondateur du groupe Akio, Frontline 106.3.
On parlait tout à l'heure de quelque chose, tu sais, quand tu as passé 6 années en prison, parce que j'ai pas passé 6 années en prison pour moi.
Tu n'as pas ?
J'ai pas passé 6 années en prison pour moi. Je ne dis pas pour la Guadeloupe, c'est prétentieux. Mais pour une cause, pour un idéal, ok ? Et c'est un idéal, qu'on le veuille ou non, c'est un idéal noble. Et partout dans le monde, les gens se battent pour leur liberté. À partir du moment qu'il y a un étranger qui est chez toi, qui te met le pain dans ta bouche, eh bien, jusqu'à ce que tu arrives toi-même à te mettre ton pain dans ta bouche, tu te bats contre lui. C'est comme ça. À la limite, j'aime bien dire ça, je suis fanonien.
Fanonien ?
Fanonien. Fanonien. Non, ouais. Ah. Oui. On ne peut pas être colonisé et content, c'est pas possible. Même s'il y a les bénéfices du ventre, même s'il y a les belles allocations familiales, même s'il y a tout ça, mais c'est tout ça. Mais moi, ce que je dis, c'est qu'il y a l'homme surtout.
Fanonien, donc.
France Fanon.
Ouais, je connais.
Il faut bien lire Fanon, la psychi. La psychiatrie vue par Fanon, il faut bien comprendre ce qu'il fait. Ce qui est vrai pour les Algériens et les Africains, c'est aussi vrai pour nous, c'est très d'actualité.
Ouais, bah,
c'est exactement la même chose.
L'année de la Terre.
L'année de la Terre, pour le masque blanc. Mais aussi, il a pas mal d'écrits scientifiques sur le comportement du colonisé. Il faut chercher, il faut trouver.
Et qu'est-ce que je veux dire ? Donc, dans les années 80, donc, il y a tous ces mouvements indépendantistes. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il y a eu un héritage ou une transmission ? Est-ce qu'il y a une continuité ou est-ce que c'est sur pause ou c'est complètement arrêté ? C'est quoi ton
vision ? Non, l'histoire est en marche, hein, l'histoire est toujours en marche. Mais comme je dis, l'histoire, c'est pas une chaîne comme ça et on sait exactement où on va à des moments précis et tout. Chaque moment de l'histoire est nécessaire au moment d'après. Il se passe toujours quelque chose et il y a toujours des choses qui restent. Aujourd'hui, il n'y a pas ce qu'on peut dire une mobilisation, il n'y a pas un discours mobilisateur comme les années 80 où il y avait des gros mouvements.
Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de leader,
par exemple. Attends, parce que la situation politique a changé, parce qu'il y a eu beaucoup de compromissions.
Donc toi, tu dis qu'il y a des moments où...
Oui, il y a des moments où l'histoire... Oui, voilà, il ne se passe pas grand-chose. Mais la conscience n'est pas morte.
La sûr de ça
Jamais. José Martí disait que la vérité, une fois réveillée, ne retombe jamais en sommeil. Et c'est vrai.
Qu'est-ce qui prouve ça aujourd'hui?
Mais moi,
je débarque...
Mais non, parce que les contradictions sont tellement grandes. Tu ne peux pas nourrir comme ça, donner à bout de bois du travail aux gens. Il y a 40% de chômeurs dans ce pays-là. En France, ils sont à 12% et ils pleurent. Et il y a 40% de chômage ici, il n'y a pas de révolution, il n'y a rien. Les gens sont là à vivre tranquillement. Tout le monde a un double emploi, tout le monde, etc. Mais plus les contradictions vont se faire jour, plus le système économique mondial aussi va broyer les gens, plus les gens vont se réveiller. Mais c'est tout à fait normal. Et il y a quelque chose qui nous diffère de la France, c'est que le mal, il y a quelque chose qui reste encore dans les mémoires, dans les têtes, c'est l'esclavage. Le Guadeloupéen n'a pas encore résolu son problème avec l'esclavage, avec son maître français. Le Guadeloupéen, à partir du moment qu'il y a un problème dans la rue, avec un blanc et un noir, un problème suffisamment grave, tu serais étonné de la réaction des gens. Hein. Ils vont vouloir lyncher le blanc. Hein.
Ouais, mais justement, est-ce que... Enfin, deux
choses... Alors, le danger, c'est que ce n'est pas politisé.
Voilà.
Oui, mais moi je suis tout à fait conscient. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut que les gens bien comprennent bien que la différence, ce n'est pas une question de noir ou de blanc. C'est une question de système. Je ne suis pas contre les peuples.
Et or, se combattre contre un système, ce n'est pas simplement réagir ponctuellement.
Non, mais c'est ce que je dis. Mais non, mais on parlait de choses. Je disais qu'il y a des choses qui sont là, latentes, qui sont là, en veille. Donc, ce sont des détonateurs. À partir du moment qu'il y a un problème, comme les gens ne sont pas politisés, les gens s'en foutent des politiques, qu'ils soient de droite, qu'ils soient de gauche, à partir du moment qu'ils ont leur RMI, qu'ils mangent, qu'ils touchent les impressions familiales, ils s'en foutent de tout ça. Mais le jour où ils seront coincés, gênés dans tout ça, à ce moment-là, il va falloir qu'ils continuent à remplir leur ventre, parce qu'ils n'y vivent que le ventre. À ce moment-là, il y a des contradictions qui font le jour. L'Afrique, par exemple. L'Afrique va se réveiller, mon cher ami. L'Afrique va foutre dehors ces gens-là de chez lui. Mais oui, mon frère. L'Afrique se réveille quand les joueurs foutra dehors de chez lui, ses colonisateurs, avec leurs valets, mon cher. La roue tourne. Oui, mon frère. La roue tourne, l'Afrique va foutre dehors tous ces exploiteurs. Tu peux être sûr de ça. Parce que nous, on nous parle de l'Afrique. On nous parle de l'Afrique qui crève, mais on ne parle pas de l'Afrique qui résiste. Et il y en a des Africains qui résistent en Afrique et qui ne sont pas les corrompus. À partir du moment où dans un pays, il y a une personne, même deux, et d'ailleurs, même si ici, il fallait que je sois le seul à être contre, j'aurais été contre ce système-là. Parce que j'ai raison.
Par exemple, on dit souvent qu'un pays comme ici ou comme un pays d'Afrique se sortira de sa situation dominée, ouais. Notamment via le développement de sa diaspora, tu vois.
Ouais. C'est très important.
Toi, tu penses que c'est effectivement une des solutions?
Oui, mais oui, tout à fait. Mais de toute façon, le travail le plus important, c'est le travail qui s'est fait sur le terrain, dans le pays. Mais tous les gens qui partent et justement qui vont chercher dehors la matière grise, etc., et ces gens-là devraient, j'ai dit, parce que personne n'est obligé, devraient justement se retourner vers leur pays et apporter leur contribution au développement de l'homme de leur pays.
Et pour ceux qui sont comme moi, qui sont nés là-bas, ouais. Qui ont vécu là-bas, qui ne prévoient pas forcément pour l'instant de revenir ici, définitivement.
Alors, il y a quelque chose que je vais te dire en tant que jeune. Je suis très content de te le dire. Okay? Le pays de quelqu'un, c'est sa tête.
Ok, quel que soit l'endroit où on est.
Quel que soit l'endroit où on est, mais c'est ta tête, c'est ton pays. Quand tu regardes, tu sais exactement où tu es par rapport à.
C'est ce que tu avais dit le 22 mai.
Oui, mais je crois que c'est exactement. Ouais. Quel que soit là où tu es, ton pays, c'est ta tête. Tu peux être en France, il se passe des choses ici, mais tu n'es pas d'accord où tu es, d'accord où tu es, où tu as droit, tu as un droit de regard, tu as un droit d'analyse. Mmh. Ça, c'est ça, c'est avoir son pays. Avoir son pays, ce n'est pas être là et puis se branler.
Le droit d'analyse,
là.
Je ne sais pas.
Hein?
Le droit d'analyse, je ne sais pas.
Ah oui, tu as le droit d'analyse, peut-être que tu n'as pas le droit de jugement sur les gens qui sont là et ce qu'ils font.
Ouais, ouais.
Mais tu as le droit d'analyse et le droit de regard. Et même un devoir. C'est même pas un droit, c'est un devoir. Tout homme qui est conséquent, etc., pour moi et à mon sens, doit se poser cette question. Et pourquoi le monde est monde? C'est parce qu'il y a des hommes justement, qu'il y a des endroits donnés, qui ont dit, mais moi, je suis de là, je suis de l'endroit, mais j'ai fait prospérer l'homme de l'endroit. Alors, quand tu entends les Allemands dire aujourd'hui, ah, nous sommes fiers d'avoir un papa allemand. Alors, quand tu entends, mais c'est ça le monde. Faire le monde, c'est ça, c'est apporter sa contribution au monde. Qu'est-ce que nous apportons au monde de te sucer leurs graines? Putain. Qu'est-ce que nous proposons comme hommes demain? Est-ce que nous subissons, nous sommes des losers, nous sommes des perdants. Nous sommes des perdants tout le temps. Il faut toujours qu'il y ait un autre pour faire notre place et pour dire que nous pouvons mener un projet aussi pour notre pays, pour nos enfants. Moi, j'ai envie de décider pour mes enfants. Parce que je dis que le peuple guadeloupéen a son génie propre comme tous les autres peuples. Le peuple français a son génie qui est bon pour le peuple français. Mais nous avons nos propres génies aussi. Nous avons nos émotions, nous avons nos sentiments. Nous avons le droit, la liberté. Moi, je crois que, écoute, les gens me diront que c'est un peu idéaliste. Ouais, je suis un idéaliste. Oui, je suis idéaliste. Ouais.
Mais il en faut.
Voilà. Il en faut. Parce que ce sont les grands idéaux, justement, qui font le monde.
Ouais.
Mais moi, on me dit, non, tu n'as pas le droit. Parce que tu es dans un tout petit pays. Non, je suis homme de la terre comme tous les hommes.
Et si tu avais un message, enfin deux messages,
ouais.
Un en direction des jeunes d'ici et en direction des jeunes qui sont en métropole.
Jeunes de partout, alors je ne dis pas en métropole parce que c'est un mot que je n'aime pas et que je n'utilise pas du tout.
Qui sont en France.
Et que je dis en France parce que c'est comme ça.
Parce que ici tu considères que c'est un pays, pas une région.
Mais non, mais même pour jouer le jeu, je joue le jeu, disons, je suis un bon français, supposons. Quand je dis métropole, c'est insultant. Et pour moi et pour les gens de là-bas. Pour la bonne raison, la métropole, à l'époque de la colonie, la métropole avait sa raison d'être. Mais aujourd'hui, on nous dit que nous sommes un département français, 97.1. Et en même temps, on me dit métropole, il y a un problème. Je suis un département français ou je suis une colonie? C'est seulement quand il y a colonie réellement qu'il y a métropole. Donc si les lois ont changé et que je suis département aujourd'hui, l'Alsace, quand il y a un Alsace ou l'Alsacien, il ne dit pas je vais en métropole, mais il va à Paris. Il est dans un département français. Voilà. Il y a un non-sens. Mais les mots tiennent les gens. Les mots sont faits pour tenir les hommes et les emprisonner sans savoir. Quand tu dis métropole, c'est que tu admets qu'effectivement, tu as une mère patrie qui te... Voilà. Tu as une mère patrie, c'est ça. Et puis tu as une belle-mère, en fait.
N'empêche, dans la réalité des faits...
Alors, dans la réalité des faits, non. Mais non. Parce que si dans leur logique c'était ça, ça aurait été tout naturellement un département.
Si dans leur logique.
Mais oui.
Mais ça l'est toujours.
Mais non, la logique coloniale. Non. Tous les gouvernants français qui nous regardent, la logique économique et commerciale. Pourquoi la France veut garder ses colonies? Pourquoi la France veut garder ses terres au loin, etc.? C'est parce que la France nous aime, les Français nous aiment, c'est pour ça, tu penses?
Non, mais c'est pour ça.
C'est parce que c'est la richesse ajoutée, c'est la valeur ajoutée, c'est plus d'océans pour la France, c'est plus de grandeur pour la France et de machin, c'est ça. C'est l'océan Indien leur appartient, la Caraïbe parce qu'à travers les machins. Maintenant, qu'est-ce qui se passe au monde? Il faut bien comprendre quelque chose, il ne faut pas rêver non plus. Maintenant, les grandes puissances, qu'est-ce qu'ils veulent? Se tailler des parts de marché dans le monde. La Guadeloupe, c'est une part de marché pour la France impeccable. Il y a 400 000 gueules à nourrir. C'est tout ce qui intéresse la France. C'est sur cette part de marché, son océan, il est dans l'Amérique, il est dans l'océan Pacifique, il est dans l'océan Atlantique, il est dans l'océan Indien, il est partout. Le jour que la France n'aura pas ces satellites-là, n'est-ce pas? Eh bien, la France va revenir une puissance, petite puissance. Elle n'aura pas troisième rang mondial, etc. Jamais. Et c'est ça, l'intérêt. L'intérêt, c'est pas les peuples qui sont là. Ils n'ont rien à foutre de nous.
J'ai 365 cicatrices, et sur ma peau, ma couleur a connu tous les hommes qui lui ont dit qu'elle était dévastatrice et qu'elle reste l'opposé du beau, complice du vice sous toutes ses formes. C'était écrit comme ces stupides règles et ces cons comme ces nègres, cupides qui ont vendu les leurs. Dans les pleurs et les cris, étouffés par les traits espiègles, comme si l'espèce bipède écoutait son cœur. J'ai pleuré, rarement ri, comme à cette connerie d'abolition. Et à leurs 150 ans, ils peuvent se le foutre dans le fion. Ils étaient fiers en rôle et tirailleurs. Et en fin de guerre, t'as su comment leur dire d'aller se faire voir ailleurs. Et qui on appelle pour les excréments, des travailleurs déracinés, laissant femmes et enfants. Et ces traditions qu'ils sauvegardent, en y repensant, j'ai de la peine pour ces noirs teints blonds pour faire blanc. S'ils savaient que pour être libre, fallait courir, ne pas se faire couper les jambes par celui qui veut tout asservir. Y'a des chaînes qui nous maintiennent au bas de l'échelle. Et pour que ça change, faudra attendre que la banquise dégèle. Regarde l'Afrique et les Antilles, l'Inde et les autres îles. Regarde les traces de l'homme blanc qui traumatise nos esprits. Non pas à vie, mais pour des générations. J'ai mon avis sur les suites des colonisations. Critique sur la façon dont on m'oblige à penser. Mais qu'est-ce t'en sais? J'ai pas eu le choix de vivre comme un Français. Un Français FABA, une monnaie forte qu'on exporte en Outre-mer. Et dans les deux cas, c'est comme droguer nos terres. Ils ont enchaîné nos pères pour qu'ils les regardent violer nos mères. Et merde, si aujourd'hui on en subit les séquelles. Mais qu'est-ce que quelques années, environ 400? Et si la fin colle au début, ça finira dans un bain de sang.
Parole de descendant de couleur de calme. Parole de descendant de couleur de calme. Parole de descendant de couleur de calme.
Voilà, c'était donc de larges extraits d'un interview, d'un entretien plutôt, avec Joël Nankin. Joël Nankin, un militant, artiste peintre, musicien guadeloupéen. Et voilà, un entretien réalisé, donc on vous le rappelle, en 2005 à Pointe-à-Pitre, et réalisé par Lynxka. Qu'on le remercie encore une fois de nous avoir permis d'utiliser cette interview. Vous pourrez retrouver la version intégrale de cet entretien et la version vidéo, parce qu'il avait filmé sur Dailymotion et tout ça. Et vous aurez toutes les informations sur autour de ce que fait Lynxka, qui est également un artiste, c'est un slammer, sur son blog lynxka.oefort.com. Et merci encore en tout cas. Voilà, donc on va se quitter cette semaine comme ça. On va se quitter avec Fela, Colonial Mentality, un titre vraiment d'actualité par rapport à ce qui se passe là-bas, puisqu'il a été évoqué dans l'entretien de toute façon par Nankin. Et vous pourrez retrouver évidemment cette émission comme toutes les autres sur le site de l'émission lignedefront.free.fr, lignedefront.free.fr. On se dit à dans 15 jours sur Frontline 106.3. Gardez l'écoute sur FPP. Big up à Aki.
The foreign taste, them they like it, don't be so.
Give me
so. The tin we're black, no good. The foreign taste,
them. Ciao, bonne soirée sur FVP.
Give me so.
Them go down.
the air condition and close them country away now. So, them go turn the air condition and close them country away now. So, them judge him go cocky weak and jail him brother away now. So, them judge him go put him weak and jail him brother away now. So, them go proud of them name and put them slave name for heading up. So, them go proud of them name and put them slave name for heading up. So, color mentality now make you hear me now. It's a ransom we make you hear. It's a Williams we make you hear. It's a Aliyah we make you hear. It's a Mohammed we make you hear. It's a Anglican we make you hear. It's a Bishop we make you hear. It's a Catholic we make you hear. It's a Muslim we make you hear. Now Africa we devil make you hear. Now Africa we devil make you hear. Color mentality hear. Color mentality hear. It's a ransom we make you hear. It's a ransom we make you hear. Now Africa we devil make you hear.